Touliba FM, les infos.
Bonsoir fidèles auditeurs et auditrices de Djoliba FM, bienvenue dans votre journal de ce mercredi 11 décembre 2024. Au sommet de ce journal, le point de presse du comité de crise pour la libération des 11 leaders politiques pour remercier leur soutien durant la dure épreuve de la période d'incarcération. 28e session de l'espace d'interpellation démocratique à Bamako, les litiges fonciers, principal sujet qui domine lors des prises de parole. Hors de nos frontières à l'international, législative au Tchad, l'opposition appelle au boycott, les détails dans un instant. C'est tout pour le sommaire de ce journal. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir. Nous commençons cette information par le premier titre. Le comité de crise mis en place suite à la détention des 11 leaders politiques a tenu un point de presse ce mercredi 11 décembre au siège du parti ADEMA. Cette rencontre avec les hommes de médias avait pour objectif de remercier tous ceux qui se sont impliqués dans le processus de leur libération. Le compte-rendu avec Ladji Kassim Diabaté.
Dans le but de témoigner leur profonde reconnaissance à l'ensemble des acteurs ayant contribué à la libération des 11 leaders politiques, le comité de crise institué à cet effet a tenu un point de presse ce mercredi au siège de l'ADEMA. Djigiba Keïta, coordinateur du comité de crise.
Ce comité de crise a ainsi réussi son mandat. Que ses membres en soient félicités. Qu'il en soit ainsi de nos brillants avocats et toutes les bonnes volontés qui ont contribué à ce heureux dénouement.
Moustaphe Diko, porte-parole des 11 leaders politiques.
Les 11 détenus aujourd'hui libres vous disent merci. Vous comprendrez, notre émotion est grande. Depuis que nous nous sommes quittés le 5 décembre au soir au CICB, nous ne nous sommes plus revus. Nous ne nous sommes même presque plus parlé au téléphone pour pouvoir vous livrer un message politique issu de notre douloureuse expérience et tirant les enseignements, dégageant les perspectives. Mais je suis sûr que ça ne saurait tarder et nous vous reviendrons incessamment.
Après plus de 5 mois de détention, cette libération représente une avancée significative. Par ailleurs, cette rencontre avec les hommes de médias a également été l'occasion d'annoncer la dissolution du comité de crise, les circonstances ayant justifié sa création n'étant plus d'actualité. Les conférenciers en ont également profité pour lancer un appel en faveur de la libération des autres leaders politiques et civils encore détenus en raison de leur opinion. Pour rappel, les 11 leaders politiques avaient été arrêtés le 20 juin alors qu'ils tenaient une réunion au domicile de l'ancien ministre Moustaphe Diko, avant d'être placés sous mandat de dépôt et libérés le 5 décembre dernier.
Économie, IEMOA, Coris Group obtient 25 milliards de francs CFA de IFC pour soutenir les PME dans 4 pays africains. La Société financière internationale, en partenariat avec la Société néerlandaise de financement du développement, a annoncé ce mardi 10 décembre 2024 l'octroi d'un financement en faveur de Coris Group. Ce prêt contribuera à combler le déficit financier du Burkina Faso, du Mali, du Niger et du Sénégal. Les détails avec Habiba Tousso.
Dans le cadre d'un partenariat annoncé en marge de l'Africa Financial Summit, la Société financière internationale IFC, en partenariat avec la Société néerlandaise de financement du développement FMO, accorderont un prêt de 25 milliards de francs CFA au groupe Coris Bank. Cette collaboration permettra à Coris Group de renforcer leurs efforts afin de mieux accompagner les petites et moyennes entreprises au Sahel, en particulier les femmes entrepreneurs. Le président du groupe bancaire de Coris Group affirme qu'en combattant les lacunes en matière de financement, ils favoriseront la croissance économique, la création d'emplois et la résilience dans les environnements les plus difficiles d'Afrique de l'Ouest. De son côté, Sergio Pimentel, vice-président de l'IFC pour l'Afrique, a souligné l'impact de cet appui sur la résilience économique des pays concernés, notamment dans un contexte marqué par les crises économiques. Avec ces partenariats, le groupe Coris et l'IFC entament une étape importante pour le financement des petites et moyennes entreprises dans l'espace IEMOA.
Comme évoqué dans le sommaire, les problèmes fonciers et cadastres dominent la 28e session de l'espace d'interpellation démocratique à Bamako. Ces 27 interpellations qui ont été lues et une grande partie évoquent ces litiges qui deviennent de plus en plus récurrentes au Mali, ce qu'on a déjà quitté.
La 28e session de l'espace d'interpellation démocratique, tenue dimanche dernier au Centre international de conférence de Bamako, a vu 27 dossiers lus, la majorité portant sur des litiges fonciers et domaniaux. Pour cette session, le secrétariat permanent du médiateur de la République a reçu 554 dossiers d'interpellation provenant des délégations territoriales du service des régions de Kidal, de Menaka, du district de Bamako et de la diaspora. À l'issue de ces travaux, la commission préparatoire a classé les dossiers comme suit. 430 poursuites à donner et 90 non retenus en plus des 27 dossiers lus. Au cours des travaux de dépouillement, 7 dossiers ont été satisfaits. Le ministre de l'Administration territoriale générale de division Abdoulaye Maïga a répondu aux préoccupations des citoyens, notamment celles concernant des terrains faisant objet de disputes à Bamako et dans les régions. Parmi les cas, Madame Yatasaï Aminata Yaranangore a demandé réparation après des travaux d'aménagement qui ont touché sa parcelle dans la commune 6. Le ministre a confirmé que sa réclamation était justifiée et qu'elle serait rétablie dans ses droits. Autre exemple, Ibrahim Sidibé, ex-agent agricole, a été dépossédé d'une parcelle à Talikon en 2001. Après plusieurs recours sans succès, le ministre Mamani Nassiré a promis l'inscription de son nom pour une compensation. Le ministre de la Justice Mamoudou Kassogué a également répondu à Boubacar Koulibaly, ex-gérant de station Akai, concernant une astreinte impayée par une banque, précisant que le cas ne relevait pas de l'autorité de la chose jugée. Les questions foncières restent des sujets importants dans les préoccupations nécessitant des réformes urgentes pour la gestion des terres et la sécurisation des titres fonciers, comme l'a souligné le médiateur de la République, Madame Sanogo Aminata Mali.
Après ces questions foncières, nous continuons ce journal avec la Journée internationale des droits de l'homme. Le 10 décembre 2024, le Mali, à l'instar de la communauté internationale, a célébré le 76e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. À cette occasion, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Aguibou Bouaré, a souligné l'importance du respect des droits fondamentaux et a appelé le gouvernement malien à intensifier ses efforts face aux grave violation des droits humains. Le récit avec Mian Tunkara.
Lors de la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Aguibou Bouaré, a mis en lumière les violations continues des droits fondamentaux au Mali, telles que les violations sexuelles, l'esclavage par ascendance et les atteintes à la vie et à l'intégrité physique. Il a insisté sur la nécessité urgente d'agir pour protéger les droits de chaque citoyen et garantir un avenir plus juste et sécurisé. Le thème de cette année, droit, notre avenir maintenant, a été l'occasion pour le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Aguibou Bouaré, de rappeler l'importance du respect des droits humains. Dans son message, il a salué les efforts du gouvernement malien tout en l'encourageant à intensifier ses actions pour relever les nombreux défis. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a souligné dans son message que les droits de l'homme sont les fondements des sociétés pacifiques, justes et inclusives. Depuis son indépendance, le Mali a adopté les principes de la Déclaration universelle des droits de l'homme, les intégrant dans le préambule de ses différentes constitutions. À ce sens, la Commission nationale des droits de l'homme du Mali renouvelle son appel aux autorités pour qu'elles prennent toutes les mesures nécessaires afin de garantir la pleine réalisation des droits énoncés dans cette déclaration.
Place à la page internationale où nous retrouvons Aboubacar Sangaré dans le studio. Bonsoir Aboubacar.
Bonsoir Tchénan et bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de Djoliba FM.
Nous commençons ce tour d'horizon par le Tchad où l'opposition appelle au boycott lors des élections législatives.
Effectivement, à 3 semaines des élections législatives, provinciales et communales, l'opposition tchadienne se lance officiellement dans une campagne de boycott. Dimanche 8 décembre, lors d'une conférence de presse en N'Djamena, le collectif GCAP a dénoncé le processus du scrutin qu'il juge déjà illégitime et a appelé les citoyens à ne pas se rendre aux urnes. Les leaders les leaders de l'opposition pointent du doigt l'absence de transparence et de crédibilité dans le processus électoral. Selon le professeur Dionan, président du parti Les Démocrates, les résultats sont connus d'avance et les voix des électeurs n'ont aucun poids. Ces élections prévues le 29 décembre, bien sûr, doivent permettre au Tchad de mettre en place des organes légitimes, notamment l'Assemblée nationale et d'autres élus communaux.
Espérons un retour au calme et au consensus. Au Nigeria, le gouvernement augmente son budget à 66%. Un budget ambitieux, Aboubakar.
Oui, un budget ambitieux pour tirer l'économie du Nigeria vers le haut. Et un budget de record pour tirer l'économie du Nigeria vers le haut, bien sûr. Le Nigeria prévoit un budget d'État de 28,74 milliards de dollars pour 2025, une augmentation de 66% par rapport à l'année 2024. Ce budget ambitieux est axé sur les dépenses à moyen terme, mise sur une production pétrolière de 2,6 millions de barils par jour, à 75 dollars le baril. Avec ce budget, un déficit de 3,87% s'impose. Le gouvernement compte combler ces trous en renforçant la résilience économique par des réformes.
Après le Nigeria, allons cette fois-ci en Europe, cap sur la France. Une loi spéciale destinée à éviter la paralysie budgétaire a été présentée en Conseil des ministres français.
Oui, à notre atterrissage à Paris, nous parlerons de cette loi spéciale. Ce projet de loi est présenté en Conseil des ministres mercredi, qui sera examiné à l'Assemblée, puis le 18 décembre au Sénat, vise principalement à autoriser le gouvernement à lever les impôts et dépenser les crédits sur la base du budget de l'année en cours. Ceci intervient après l'abandon du projet de loi de finances de 2025 en raison de la censure du gouvernement le 4 décembre. Cette loi assurera la continuité de l'État à partir de janvier en absence du budget 2025. Une situation qui sort de l'ordinaire en France. Le gouvernement ne pourra pas présenter un budget d'ici la fin de l'année 2024. Deuxième du genre depuis 1979 car le budget n'avait pas pu être adopté avant le 31 décembre. Après réorganisation, le nouveau gouvernement doit donc présenter le projet de loi de finances, mais avec un retard accusé en 2025.
Une situation historique. Bouclons le tour en Amérique. Donald Trump affirme un raffermissement des relations entre Paris et Washington.
Oui, pour clore cette page internationale, on vient en France encore avec Donald Trump. Élu le 5 novembre dernier, Donald Trump entend consolider davantage les relations entre la France et les États-Unis, notamment sur le plan du commerce et de la défense. Dans le magazine français Paris Match publié mercredi, le nouveau patron de la Maison-Blanche affirme qu'il fera beaucoup d'affaires avec la France. Pour cela, il compte renforcer les liens de commerce et de défense entre les deux pays. En outre, le candidat républicain avait promis un renforcement des droits de douane concernant les produits européens lors de sa campagne. Durant son premier mandat, Donald Trump avait imposé une surtaxe de 25% sur certains vins européens. Cette fois-ci, Trump s'affiche comme un partenaire fructueux pour Paris. Il prendra officiellement ses fonctions le 20 janvier 2025. Et c'est tout pour cette page internationale, Tiena.
Merci beaucoup pour ce tour d'horizon, Aboubakar Sangaré.
Merci à vous.
De retour au Mali, parlons à présent du championnat national de Ligue 1 dont la quatrième journée a démarré ce mercredi. Après les rencontres de la troisième journée, la Fédération malienne de football a dévoilé le programme de la quatrième journée du championnat national de Ligue 1 professionnel. Le match phare de cette journée opposera l'AS Bakaridjan au Benga FC. Découvrons le programme détaillé de la journée dans ce récit de Aminata Dede Sissoko.
En ouverture de cette quatrième journée, le Djoliba AC, champion sortant, était opposé ce mercredi à l'Union sportive des forces armées et de sécurité USFAS. Cette journée se poursuivra ce vendredi 13 décembre 2024 avec deux rencontres. À Kati, au stade Salif Keita Domingo, à 16h, les 11 créateurs de Nyarela affronteront l'Africa Foot Elite. Au stade Mamadou Konaté, à 16h, l'AS Bakaridjan de Barawili accueillera les Binga FC. Le samedi 14 décembre 2024, l'US Bougouni sera face à l'association sportive de Korofina, ASCO, à 16h au stade Mamadou Konaté. Juste après cette rencontre, l'US Bougouba en découdra avec l'AS Real. Dans la ville garnison Kati, le FC Diarra offrira son hospitalité à l'AS Police. La rencontre entre les stades maliens de Bamako et l'Étoile du Mandé a été reportée à une date ultérieure. Signalons que depuis le début du championnat, le stade malien de Bamako n'a disputé aucune rencontre.
Juste avant notre entrée dans le studio, le match Djoliba US FAS a pris fin au stade Mamadou Konaté et le Djoliba AC s'est imposé 2-1 devant l'US FAS. C'est sur cette bonne note en faveur des Rouges de Bamako que prend fin ce journal que j'ai eu l'immense plaisir de présenter. La mise en onde a été assurée par Boubacar Traoré, présentation Tiana Tangara, chef d'édition Idrissa Sagara. Merci à vous pour votre écoute et restez sur Djoliba FM.